VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 3 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. La junte au Mali a nommé des hauts gradés dans la hiérarchie militaire pour remplacer ceux de l'ancien régime. Le président guinéen Alpha Condé a déposé son dossier de candidature auprès de la Cour constitutionnelle. L'ex-ministre tchadien du pétrole est en garde à vue suite à une plainte des autorités pour corruption. Joe Biden s'est rendu à Kenosha dans le Wisconsin où il a rencontré la famille d'un homme noir grièvement blessé par la police. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, le CNSP a nommé des hauts gradés à des fonctions clés en remplacement de militaires nommés par l'ancien pouvoir. Par ailleurs, le chef de la junte s'est rendu au chevet de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été admis dans une clinique privée à Bamako. Kassim Traoré.
Depuis le 18 août 2020, la chaîne de commandement était entre les mains des intérimaires par endroits. Sur la base de l'acte fondamental du CNSP, le colonel Assimi Goïta, patron des militaires au pouvoir, a pris certains décrets pour nommer des chefs militaires. Parce que plusieurs anciens chefs militaires sont arrêtés et devraient être remplacés pour faciliter le fonctionnement de l'armée malienne. Le général Oumar Diarra est nommé chef d'état-major général des armées du Mali. Il remplace le général Ablaye Koulibaly, qui est toujours retenu par les militaires, ainsi que certains hauts gradés et autres personnalités politiques arrêtées lors du coup d'état militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier même souffre actuellement et est victime d'accidents systémiques transitoires. Son état de santé s'est amélioré. Ce matin, le président du Comité national pour le salut du peuple et son deuxième vice-président se sont rendus au chevet de l'ancien président du Mali. Ibeka s'est réjoui de cette visite et a formulé des bénédictions pour le pays afin que le Mali puisse sortir de cette crise. Il faut signaler que l'ancien président malien est âgé de 75 ans. Il souffre de problèmes de santé chroniques et il s'est notamment fait retirer une tumeur bénigne au cou en 2016 à Paris. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président guinéen Alpha Condé a déposé son dossier de candidature auprès de la Cour constitutionnelle. Il a confirmé mercredi être candidat à un troisième mandat, malgré la contestation qui a coûté la vie à des dizaines de civils. Monsieur Condé s'est rendu à pied du palais présidentiel à la Cour, entouré de son épouse, du président de l'Assemblée nationale et de plusieurs ministres. La nouvelle constitution limite à 2 le nombre des mandats, mais les partisans du président disent que le nouveau texte remet les compteurs à 0. Le président français Emmanuel Macron reçoit son homologue ivoirien Alassane Ouattara vendredi à l'Élysée à Paris, a annoncé son bureau. Monsieur Ouattara a déclaré accepter la nomination du parti au pouvoir début août pour être son candidat à la présidentielle d'octobre. Ses adversaires affirment que la Constitution interdit un troisième mandat. L'ex-ministre du pétrole au Tchad, Djerassem Lebemadjel, est placé en garde à vue depuis mercredi. Il est poursuivi pour détournement d'argent public, corruption et enrichissement illicite. Son avocat dénonce un procès politique. Le point avec André Kodmajingar.
L'heure est grave. C'est pourquoi nous voulons vous associer pour que l'opinion, tant nationale qu'internationale, soit informée sur les violations graves de nos textes et des textes internationaux qui garantissent le procès juste et équitable.
Maître Doumra Manassé, avocat de l'ancien ministre du pétrole Djerassem Lebemadjel, qui avait quitté ses fonctions il y a plus de 4 ans. Pour lui, 11 audits ont été réalisés, mais aucune charge n'est retenue contre lui. Il estime que ce sont des lobbies qui l'ont fait annuler leur contrat de pétrole parce qu'ils ont bradé le pétrole avec de faux contrats qui seront à l'origine de cette cabale judiciaire. Il dénonce la procédure enclenchée contre son client, qui selon lui devrait être remercié pour son abnégation pendant qu'il était en fonction.
C'est une violation grave parce que les conditions d'émission de mandat d'amener ne sont pas réunies. Il va falloir que plusieurs convocations soient émises et qu'il y ait refus à comparution. C'est le seul ministre des pétroles, et je voulais insister, qui a fait rentrer plus de 800 milliards. Le budget tchadien, pendant qu'il travaille, est devenu excédentaire. Cet acharnement a une origine politique.
André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Les États-Unis ont demandé que Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, se voit accorder un procès équitable. La police rwandaise l'accuse d'avoir financé et créé des groupes terroristes. Eric Manirakiza.
Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, a annoncé avoir rencontré hier Mathilde Mukantabana, représentante du Rwanda aux États-Unis, pour évoquer le contexte de l'arrestation de Paul Rusesabagina. Les États-Unis attendent que le gouvernement rwandais le traite humainement, respecte l'état de droit et garantisse à M. Rusesabagina un procès équitable et transparent, a-t-il déclaré dans un communiqué. M. Rusesabagina était le directeur de l'hôtel des Mille Collines à Kigali entre avril et juillet 1994 pendant le génocide. Il aurait sauvé plus d'un millier de vies humaines en les cachant dans l'hôtel. Le président George W. Bush lui a décerné en novembre 2005 la médaille de la liberté. Il a quitté le Rwanda en 1996 et vivait en Belgique et aux États-Unis. M. Rusesabagina est ensuite devenu une critique de M. Kagame. En exil, il a fondé le mouvement rwandais pour le changement démocratique. Sa branche armée, le Front de Libération Nationale, FLN, a revendiqué des attaques sur le sol rwandais. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. La justice de Kigali l'accuse d'actes de terrorisme, des incendies, des enlèvements et meurtres, notamment commis sur le sol rwandais en juin et en décembre 2018. Les circonstances de son arrestation et de son retour au Rwanda n'ont pas été dévoilées.
Serge Brammertz, procureur de la juridiction internationale appelé à juger l'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga, arrêté en France, a indiqué travailler activement à consolider le dossier d'accusation avec une équipe renforcée au Rwanda. Accusé d'être le financier du génocide de 1994, Kabuga a été arrêté en mai près de Paris. Après 25 ans de cavale, M. Brammertz est en visite au Rwanda dans le cadre de cette affaire. En République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont défilé à Bukavu dans le sud Kivu en soutien au prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qui affirme avoir reçu des menaces de mort. Ils ont appelé les autorités à dénicher les auteurs de ces menaces, a déclaré l'activiste Josapha Baraka. Parmi les manifestants figuraient des femmes qui ont été hospitalisées à la clinique de Panzi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, s'est entretenu en privé avec la famille de Jacob Blake, un homme noir grièvement blessé par la police dans le Wisconsin. Le point avec Abdourahman Dia.
Son déplacement en compagnie de son épouse Jill Biden intervient deux jours après la visite de son adversaire Donald Trump, qui s'est rendu mardi à Kenosha, où il a visité des magasins détruits lors des émeutes et salué le travail de la police. Le locataire de la Maison-Blanche n'a toutefois pas rencontré la famille de Jacob Blake, qui avait, selon lui, souhaité la présence d'avocats. Selon l'équipe de campagne de Joe Biden, sa visite a pour but de tenter de rassembler les Américains pour panser leurs plaies et répondre aux défis auxquels ils font face. Mais le président local de la NAACP, une puissante organisation de défense des droits civiques, a indiqué qu'il souhaitait que Donald Trump et Joe Biden reportent leur visite, estimant que la situation est fragile et que l'heure est au dialogue au niveau local. Jacob Blake, 29 ans, a été grièvement blessé de 7 balles tirées à bout portant devant ses enfants pendant une interpellation le 23 août. Le Wisconsin devrait jouer un rôle crucial lors de l'élection présidentielle du 3 novembre. Donald Trump l'avait remporté de justesse en 2016.
L'Union européenne a déclaré soutenir la Cour pénale internationale après l'annonce de sanctions américaines contre la procureure Fatou Bensouda et a assuré que Bruxelles avait exprimé son désaccord à Washington. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annoncé mardi l'inscription sur la liste noire des États-Unis de Madame Bensouda et de Fakiso Moshoshoko, un cadre de la Cour. Les négociations post-Brexit entre le Royaume-Uni et les États-Unis vont reprendre le 8 septembre, a annoncé Londres. Les Britanniques doivent signer avant la fin de l'année de nouveaux accords commerciaux avec l'Union européenne, mais aussi avec d'autres partenaires. En l'absence d'entente préalable, les règles de l'OMC s'appliqueront avec des droits de douane élevés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gipour.
Le directeur et le directeur général adjoint de l'agence de Bara d'Access Bank en Gambie ont été arrêtés à Dakar. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné 260 millions de francs CFA et ils seraient venus se réfugier dans la capitale sénégalaise. Ils ont été arrêtés par la division des investigations criminelles du Sénégal. Le gouvernement ghanéen est à la recherche de 2 à 3 milliards de dollars américains pour des travaux d'extension des infrastructures des aéroports du pays. Kofi Annan, le ministre de l'Aviation, veut faire du Ghana une plaque tournante de l'aviation en Afrique de l'Ouest. Hier, les vols internationaux ont repris au Ghana, mais les frontières terrestres restent fermées jusqu'à nouvel ordre. La société technologique chinoise Huawei veut investir plus de 60 millions de dollars en Angola dans la construction d'un parc technologique. Basé à Talatona, dans la capitale Luanda, cette infrastructure formera plus de 1500 ingénieurs dans les nouvelles technologies. Le parc doit ouvrir en décembre 2021. Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé, selon les chiffres publiés jeudi par le département du travail. Du 23 au 29 août, 881 000 personnes se sont inscrites au chômage contre 1,011 million la semaine précédente. Les analystes attendaient 915 000 nouvelles demandes.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. NBA, pour commencer, Miami a arraché au buzzer le deuxième match de la demi-finale de conférence contre Milwaukee 2-0. Déjà dos au mur. De son côté, les Houston Rockets ont réussi à s'offrir une demi-finale de conférence Ouest face aux Lakers de LeBron James après leur victoire 104 à 102 dans le septième match au couteau face à Oklahoma City. Toujours ici aux États-Unis, en tennis cette fois-ci, Serena Williams lancera la session nocturne sur le court d'Arthur Ashe ce jeudi pour la quatrième journée de l'US Open consacrée à la fin du deuxième tour. La quête d'un 24e titre majeur se poursuit donc pour la cadette des sœurs Williams face à la Russe Margarita Gasparian. Football, les entraîneurs de Bundesliga pourront procéder à 5 changements par match cette saison, comme c'était le cas depuis la reprise post-coronavirus en mai. La fédération a aussi annoncé que la règle des 5 changements serait autorisée en Coupe d'Allemagne et en Bundesliga féminine. Pour le retour des supporters au stade, les clubs sont d'accord pour que chacun puisse élaborer son propre concept avec les autorités de sa région ou de sa ville en fonction des règlements sanitaires locaux. Le RB Leipzig a été pionnier en la matière en obtenant l'autorisation d'accueillir 8500 spectateurs, environ 20% de la capacité de son stade, pour la première journée de championnat le 20 septembre contre Mayence. En Angleterre, l'association Kick It Out, entendez Dégageons-le, qui lutte contre l'intolérance dans le football, a annoncé une hausse de 42% des cas qui lui ont été rapportés dans le football professionnel la saison dernière. Selon le rapport annuel de l'ONG, 446 cas ont été portés à sa connaissance lors de la saison 2019-2020 contre 313 l'année précédente pour les divisions allant de la Premier League à la Ligue 2, entendez la 4e division anglaise. Les cas d'insultes à caractère raciste ont grimpé de 53% et celles liées à l'orientation sexuelle des victimes ont explosé de 95%, passant en un an de 60 à 117. La fin de la saison dernière a été marquée par l'hommage systématique des équipes de Premier League au mouvement antiraciste Black Lives Matter et les témoignages de joueurs sur les comportements insultants dont ils ont été victimes se sont multipliés.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités affirment que les économies des régions anglophones sont mises à mal par le conflit séparatiste qui dure depuis 4 ans. Les recettes fiscales dans le nord-ouest se sont effondrées, passant de 800 000 dollars par an à 1 000 dollars l'an dernier. La baisse drastique des fonds publics a eu des effets dévastateurs sur la région. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Dans la région anglophone du Nord-Ouest, les séparatistes ont réussi à chasser presque tous les agents des douanes et des impôts, a déclaré Fotso Dominique, responsable économique de la région à la télévision nationale. Il a ajouté qu'une baisse de 90% des importations de matériaux de construction, de médicaments, de véhicules, d'électronique et de produits de base en provenance du Nigeria a été constatée.
Avant 2016, la perception des droits de douane s'élevait à plus de 200 millions de francs à Dongamantung et environ 150 millions à la division Mentum, soit un total d'environ 305 millions par an. Au moment où nous parlons, Dongamantung a collecté l'année dernière moins de 500 000 francs et rien n'a été collecté dans la région de Mentum.
Le gouvernement camerounais a rapporté ce mois-ci que le deuxième employeur du pays, la Cameroon Development Corporation, a abandonné la plupart de ses plantations de bananes, de palmiers à huile et de caoutchouc. Elle doit jusqu'à 1 an de retard de paiement de salaire à 6 000 de ses 22 000 employés. La Palm Oil Company Pamol et d'autres sociétés agro-industrielles affirment qu'elles sont fortement endettées. Les institutions de microfinance qui alimentent les économies des régions anglophones se disent incapables de récupérer 50 millions de dollars de prêts. L'homme d'affaires Protus Onaga a failli perdre la vie pour avoir désobéi aux instructions des séparatistes de ne pas partir en voyage d'affaires la semaine où un verrouillage a été imposé.
Ce fut le moment le plus horrible de ma vie. Face à des hommes armés comme eux, et ils nous ont ordonné de sortir de la voiture. Même si nous avons vu nos affaires brûler, nous étions quand même reconnaissants à Dieu, car ils auraient dû nous brûler avec la voiture. C'est terrible, c'est lamentable.
Pour l'économiste Tasso Gérald, les conséquences de cette crise pèsent sur le gouvernement. Mais ce sont les civils qui souffrent le plus. Il s'agit de personnes dont les entreprises ont été incendiées par des séparatistes ou de personnes dont les biens ont été incendiés par l'armée qui les a accusés de soutenir les rebelles.
Cette situation a découragé les investissements dans cette région, ce qui implique une augmentation du chômage et une baisse du niveau de vie. De plus, la plupart des entités administratives locales ont du mal à régler leurs dettes et payer leurs travailleurs. Une autre conséquence est le quasi-effondrement du secteur du tourisme.
Malgré ces situations difficiles et la souffrance des populations, le gouvernement et les combattants ont maintenu leur position. Ces 4 dernières années. Les séparatistes demandent la création d'un État anglophone alors que le gouvernement soutient que le Cameroun ne peut pas être divisé. Selon les données des Nations Unies, ce conflit a fait plus de 3000 morts et 1,5 million de déplacés.
En Tanzanie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 28 octobre bat son plein. Le principal parti d'opposition, le Chadema, veut faire chuter le président John Magufuli en poste depuis 5 ans. Le chef de l'État sortant a lancé de grands projets d'infrastructure et lutté contre la corruption. Mais ses détracteurs l'accusent de réprimer les opposants et la liberté de la presse. Un reportage de Charles Combe à Dar es Salaam. Le récit est de Jacques Aristide.
Comme 16% des Tanzaniens habitant en milieu rural, Zainabu Mohamed, 87 ans, vit sans électricité depuis 30 ans en raison de la cherté du courant. Mais elle croit que le projet hydroélectrique de Rufuji lui permettra enfin de voir la lumière au bout du tunnel.
Lorsque le projet d'électricité sera terminé, je n'aurai plus à utiliser la lampe à pétrole. Les choses iront mieux car j'aurai de l'électricité.
Ce barrage est l'un des méga-projets du président John Magufuli. Il devrait être achevé en 2022 et fournir 2100 mégawatts, soit le triple de l'énergie hydroélectrique que produit la Tanzanie actuellement. Le président Magufuli.
Nous pensons qu'une fois ce barrage terminé, de nombreux citoyens cesseront d'utiliser du bois et du charbon de bois. Au lieu de cela, ils utiliseront de l'électricité à bas prix.
Les partisans du président Magufuli notent que ces projets, tels que le chemin de fer pour relier le Rwanda et l'Ouganda voisins, aideront à stimuler l'économie. Mais ses détracteurs l'ont affublé du surnom de bulldozer, en raison de ses assauts répétés, selon eux, contre les opposants et les médias. Meksense Melo est fondateur de l'ONG Jamii Forum.
J'ai été interrogé à plusieurs reprises par les autorités, arrêté, détenu par la police et également mis en prison. J'ai été accusé de diverses choses depuis 2016 et j'ai été traduit en justice plus de 148 fois.
Tundu Lissu, le candidat du parti d'opposition Chadema, est rentré en Tanzanie en juillet dernier pour affronter John Magufuli. Tundu Lissu avait quitté le pays en 2017 après avoir échappé d'une tentative de meurtre. Singo Benson est secrétaire adjoint du Chadema.
Au cours de ces 5 années, nous avons vu des partis politiques interdits d'exercer leurs activités. Ce qui est contre la Constitution, contre la loi. C'est le premier coup porté contre la démocratie, car la démocratie inclut la liberté d'expression des citoyens et le fait d'avoir de nombreux partis politiques, des partis alternatifs capables de donner des idées alternatives.
En donnant le coup d'envoi en août dernier de sa campagne de réélection, John Magufuli s'est félicité que la Tanzanie ait passé d'un pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire. Alors que ses détracteurs craignent un net recul des libertés, les partisans du chef de l'État privilégient le développement économique pour un avenir meilleur.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda et Fakiso Moshoshoko, un cadre de cette juridiction. Yacouba Ouedraogo a joint Bruno Stagno, directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch.
Ils sont en train de geler tous les comptes bancaires, les avoirs que peut avoir madame la procureure. Et étant donné la puissance financière des États-Unis et son rôle central dans tout ce qui est les échanges de devises depuis le dollar, ça veut dire qu'ils essayent de, en fait, éviter que madame la procureure puisse faire des transactions, des virements, utiliser le dollar. Et c'est très troublant parce qu'en fait, ces types de sanctions financières ont été élaborées pour être imposées contre des gens qui commettent des graves violations de droits de l'homme, des soi-disant terroristes ou des soi-disant trafiquants de drogue. Mais ici, on parle d'un agent de justice, donc c'est une perversion totale de la justice et du mécanisme des sanctions financières.
Pourquoi les Américains ont sanctionné ces personnalités de la CPI, dont Fatou Bensouda, qui est la procureure?
Parce que la Cour s'est penchée sur des éventuels crimes de guerre commis par des forces spéciales et autres des États-Unis en Afghanistan. Et les États-Unis, ou au moins l'administration Trump, ils veulent croire qu'eux, ils sont totalement isolés, qu'eux, ils n'ont pas de compte à rendre à personne et que ce n'est pas à une cour internationale basée à La Haye de déterminer, de faire des recherches ou des enquêtes sur des éventuels crimes de guerre commis par des forces spéciales des États-Unis. Ce que ça montre, c'est évidemment un niveau d'exceptionnalisme qui est très troublant, parce que ces crimes ou éventuels crimes ont été commis en Afghanistan, qui est un État parti de la Cour pénale internationale.
Justement, on sait que les États-Unis n'ont pas signé le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il est possible pour la CPI de juger un citoyen américain, étant donné que son pays n'est pas parti de cette cour-là?
Oui, la Cour peut le faire, parce que ce qui compte, c'est le pays où les crimes ou éventuels crimes ont été commis. Dans ce cas, il s'agit de l'Afghanistan. Et donc, toute personne, indépendamment de leur nationalité, susceptible d'avoir commis des crimes qui sont sous l'égide de la Cour pénale internationale peuvent être donc enquêtés par la Cour. Dans ce cas, c'est des forces spéciales des États-Unis, et donc parce qu'ils ont agi en Afghanistan, la Cour pénale peut se pencher là-dessus.
Bruno Stagno, directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne soirée et bon courage à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis veulent s'assurer que lorsque les programmes linguistiques et culturels chinois font l'objet de manipulations par le Parti communiste chinois et ses mandataires, les étudiants des campus universitaires américains s'en rendent compte. La désignation par le département d'État du centre américain de l'Institut Confucius, ou CUS, comme une mission étrangère de la République populaire de Chine, reconnaît que le CUS est, comme l'a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo, une entité promouvant la propagande mondiale de Pékin et sa néfaste campagne d'influence sur les campus universitaires et dans les écoles primaires et secondaires américains. Les instituts Confucius sont principalement financés par le gouvernement chinois et font partie de l'appareil mondial d'influence et de propagande du Parti communiste chinois. La désignation ne fermera pas les CUS ni ne demandera aux universités de fermer les instituts Confucius individuels. La désignation du CUS comme mission étrangère assurera la transparence en exigeant des CUS qu'ils fournissent régulièrement au département d'État les informations concernant le personnel chinois, le recrutement, le financement et les opérations aux États-Unis. De tels rapports permettront aux écoles américaines de prendre des décisions plus informées concernant l'influence exercée sur leur campus et si ces programmes appuyés par Pékin doivent continuer à être utilisés pour enseigner leurs élèves. Selon l'Association nationale des universités, NAS, 75 instituts Confucius opèrent actuellement aux États-Unis. Il y a aussi 500 classes Confucius dans les écoles primaires. Elles sont pour la plupart liées à l'un des instituts Confucius basés dans les universités. L'influence du gouvernement chinois et du Parti communiste chinois sur les programmes des instituts Confucius a été pendant longtemps une source de préoccupation sur les campus américains. Par exemple, un rapport de l'Association nationale des universitaires sur l'Institut Confucius datant de 2017 a relevé que certains enseignants des instituts Confucius faisaient l'objet de pressions pour s'auto-censurer. Les contrats entre les instituts Confucius et les universités n'étaient souvent pas accessibles au public. Certaines universités se voient offrir des incitations financières pour ne pas critiquer la République de Chine. Et le matériel didactique des instituts Confucius présente un aperçu sélectif de l'histoire chinoise en omettant les sujets relatifs aux abus des droits humains. Pendant plus de 4 décennies, Pékin a eu libre accès à la société américaine tout en déniant aux Américains et aux autres étrangers un accès similaire en Chine. La relation est complètement déséquilibrée. a dit le secrétaire d'État adjoint pour les affaires d'Asie, de l'Est et du Pacifique, David Stilwell. Notre objectif est d'amener la Chine à comprendre l'importance de la transparence, de l'ouverture et du partage. Mais avant que cela ne soit effectif, nous allons prendre des mesures pour nous défendre.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.